Bienvenue. On a tous déjà vécu ça, j'imagine, un débat sur les réseaux sociaux qui part complètement en vrille.
Ou le repas de famille, le classique.
Exactement, le repas de famille où un sujet politique arrive sur la table, et là, c'est le grand froid. Et on se demande toujours, mais pourquoi c'est si dur de faire changer quelqu'un d'avis?
Même avec des faits, hein.
Même avec les faits sous le nez. Et puis, si on est honnête, pourquoi nous-mêmes on s'accroche comme ça à nos positions?
C'est une excellente question. Et c'est un peu le voyage qu'on propose aujourd'hui. On va plonger dans la psychologie de nos désaccords.
D'accord.
Et on va voir que nos cerveaux, d'une certaine manière, ils sont un peu câblés pour nous conforter dans ce qu'on croit déjà. Et que notre époque, le numérique, tout ça, ça jette un peu d'huile sur le feu.
Pour nous éclairer, on va s'appuyer sur plusieurs articles du philosophe Julien Lecomte. La mission, si je résume, c'est d'abord de comprendre un peu les pièges, les fameux biais cognitifs, les chambres d'écho.
Les bulles de filtre.
Voilà, tous ces trucs qui nous enferment. Mais, et c'est le plus important, on ne va pas juste faire un constat un peu déprimant. L'idée, c'est de trouver un outil, une compétence pour en sortir. Et c'est ce que Lecomte appelle la décentration.
C'est exactement ça. Il ne s'agit pas du tout d'abandonner ses convictions, attention.
Non, non, bien sûr.
C'est plutôt de muscler sa pensée critique. C'est l'art de faire un pas de côté, tu vois, pour mieux comprendre le tableau d'ensemble. Et surtout pour que le dialogue redevienne possible, quoi.
Parfait. Alors, on commence par quoi? Le premier mécanisme?
Allons-y. Le premier, il est redoutable, c'est le biais d'appartenance.
Le biais d'appartenance. C'est-à-dire que le groupe auquel on appartient compte plus que le message lui-même.
C'est ça, c'est d'une puissance incroyable. Il y a une étude américaine qui le montre de façon mais éclatante.
Ah oui.
On présente des propositions de loi à des électeurs. Et le résultat, il est stupéfiant. Des électeurs républicains vont approuver une mesure si on leur dit qu'elle vient de leur camp.
Même si le contenu est démocrate.
Même si le contenu est typiquement démocrate. Et ça marche à l'identique dans l'autre sens, évidemment. La loyauté, l'étiquette du groupe, ça écrase tout.
C'est fou. C'est un peu l'uniforme qui compte plus que la personne dedans. Et ça m'amène à un autre biais que je trouve presque drôle, le my side bias.
Ah oui, le biais de mon côté. C'est une théorie de Mercier et Sperber qui est fascinante.
Qu'est-ce qu'ils disent?
En fait, ils disent que l'être humain n'est pas crédule. Pas du tout. Au contraire, on est d'excellents critiques. On est des machines à déceler les failles et les faiblesses d'un argument.
Mais seulement chez les autres.
Voilà, c'est exactement ça. C'est notre angle mort absolu. On voit la paille dans l'œil du voisin, mais jamais la poutre dans le nôtre.
C'est un peu comme essayer de lire l'étiquette à l'intérieur d'un bocal. C'est impossible.
C'est une super analogie, ça. Nos propres idées, c'est notre point aveugle. Une expérience le montrait bien. On fait résoudre des problèmes de logique à des gens. Ensuite, on leur dit, vous pouvez réviser votre copie.
Et alors?
Résultat, moins de 15% changent d'avis. Même quand leur réponse est clairement fausse. On défend notre position, pas parce qu'elle est juste, mais parce que c'est la nôtre.
Ça me rappelle cette citation de Paul Ricoeur que Lecomte utilise. L'idéologie, c'est toujours l'idéologie de quelqu'un d'autre.
C'est tellement vrai. On est tous persuadés d'être objectifs et que ce sont les autres qui sont prisonniers de leurs idées.
Et ce mécanisme, il est amplifié par ce qu'on appelle les chambres d'écho.
Oui, et là, c'est un autre effet pervers. L'idée, elle est simple. Quand on ne discute qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous,
Ce qui arrive tout le temps.
tout le temps, eh bien, nos opinions ne font pas que se confirmer, elles se radicalisent.
Alors ça, c'est contre-intuitif. On pourrait penser que plus on en parle, plus on nuance.
Et c'est le contraire qui se passe. En vase clos, on devient plus extrême. Ce n'est pas nouveau, hein. Des études des années 60 montraient déjà ça.
Ah oui, waouh.
Tu mets des femmes modérément pro-féministes ensemble, elles en ressortent fermement pro-féministes. Tu mets des gens un peu critiques envers un groupe, ils en sortent carrément hostiles. Le fait d'entendre nos idées répétées par les autres, ça nous donne un excès de confiance, quoi.
On devient plus.
Plus tranché.
Moins nuancé, exactement.
Et évidemment, aujourd'hui, on pense tout de suite à Internet.
Aux bulles de filtre.
Oui, les algorithmes, bien sûr, YouTube, TikTok, ils sont conçus pour nous montrer ce qu'on aime déjà, ce qui va dans notre sens.
C'est le but du jeu.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit le sociologue Dominique Cardon. Il dit, en gros, attention, le phénomène est social avant d'être technologique. Le vrai filtre, ce sont nos amis, bien plus que l'algorithme.
L'algo ne fait qu'accélérer une tendance qui est déjà là, en nous.
Précisément. Et pour illustrer ça, il y a une analogie que je trouve géniale dans les sources, c'est le paradoxe de Google Street View.
D'accord.
On a cet outil qui est magique, on peut visiter n'importe quelle rue du monde, on se dit « Oh super, les gens vont aller voir le Machu Picchu, les ruelles de Kyoto… »
L'exploration, la découverte…
Eh ben non, pas du tout. Statistiquement, l'usage numéro un de Google Street View, c'est de regarder des endroits qu'on connaît déjà.
Non.
Sa propre maison, la maison de ses parents, l'adresse d'un rendez-vous. On a un outil pour l'inconnu et on l'utilise pour se rassurer avec du familier.
C'est incroyable comme analogie. On a la plus grande bibliothèque du monde et on s'en sert pour relire toujours le même livre. Ça en dit long.
C'est exactement ça. Et c'est ce même réflexe qui nous fait rester dans nos bulles. On préfère le familier.
Bon, le diagnostic est assez clair et un peu sombre. On est câblé pour avoir des œillères, on se regroupe entre nous et la technologie met un turbo là-dessus. C'est un peu déprimant.
Heureusement, Julien Lecomte ne s'arrête pas là.
Non. Et c'est là qu'intervient ce fameux concept de décentration.
C'est le cœur de la solution, oui.
Alors, décentration, ça sonne un peu technique. En termes simples, c'est quoi?
C'est juste l'effort conscient de se mettre à la place de l'autre.
Dans ses chaussures.
Voilà. Et je précise un truc important. Ça ne veut pas dire être d'accord avec lui. Surtout pas. Ni abandonner ses propres idées. C'est juste un exercice de compréhension.
Essayer de voir le monde depuis sa fenêtre, en quelque sorte.
C'est ça. Essayer de reconstituer sa logique. Comment, avec son histoire, ses infos, il en est arrivé là? C'est ce qu'on appelle la métacognition. Penser sur sa propre pensée et sur celle des autres.
Et c'est une compétence, un muscle qui s'entraîne. On parle de la discussion comme d'un jeu, avec des règles. Et l'une des règles, c'est le principe de charité.
Ah, ce principe, il est fondamental. Il a été théorisé par le philosophe Daniel Dennett. C'est très exigeant.
En quoi ça consiste?
Ça demande, avant de critiquer ton interlocuteur, d'être capable de reformuler sa position à sa place, mais de le faire de manière si juste, si précise, que l'autre pourrait te dire « Merci, c'est exactement ça. Vous avez mieux formulé ma pensée que moi-même. »
C'est admirable. Mais soyons francs, est-ce que c'est vraiment applicable tout le temps? Sur les réseaux sociaux, par exemple, si on reformule gentiment la pensée de quelqu'un qui est de mauvaise foi ou qui insulte, est-ce qu'on ne perd pas son temps?
C'est une très très bonne objection. Évidemment, ce n'est pas une formule magique.
Non.
Ça présuppose que les deux personnes ont envie de jouer le jeu. Si l'autre est juste là pour détruire, ça ne marchera pas. Mais c'est un idéal. Et rien que le fait d'essayer, ça envoie un signal. Ça dit « je vous prends au sérieux ». Et parfois, juste ça, ça peut désamorcer un conflit.
On passe d'un combat à une collaboration, en fait.
Exactement.
J'aime bien aussi la métaphore du combat de boxe. Une discussion, ça peut être une joute, un clash, c'est sain. Mais il y a des règles.
À la boxe, oui. Il y a des coups permis, et puis il y a les coups bas. Et un coup bas, ça met fin à l'échange.
Il y a des exemples très concrets de ces coups bas. Le premier, c'est le comportement pédant.
Ah oui, le fameux « allez relire un tel et on en reparlera » ou « vous n'avez visiblement rien compris ».
Le classique argument d'autorité, mais est-ce que parfois ce n'est pas justifié si quelqu'un parle d'un sujet sans en connaître les bases?
Tout est dans l'intention. Suggérer une lecture pour aider, si ça t'intéresse, ce livre est une bonne intro, c'est une chose. Utiliser une référence pour disqualifier l'autre, pour le faire passer pour un ignorant et refuser le débat sur le fond, ça, c'est un coup bas. Le but n'est pas d'éclairer, c'est d'humilier.
D'accord, je vois la nuance. Et à l'opposé du pédant, il y a le frustré. C'est celui qui dit « De toute façon, personne ne me fera changer d'avis ».
Voilà. La porte blindée, c'est le rejet pur et simple du dialogue. À quoi bon échanger si le résultat est connu d'avance?
Et le point commun entre les deux, c'est le mépris.
C'est le rejet de l'autre comme interlocuteur valable.
Ce qui amène à cette règle un peu étrange, pour protéger la discussion, il faudrait rejeter le rejet.
Ça semble paradoxal, mais c'est très logique. Rejeter une attitude qui détruit la possibilité même de discuter, ce n'est pas de l'intolérance.
Au contraire.
C'est protéger l'espace de la discussion pour ceux qui veulent vraiment échanger. C'est un peu comme expulser un joueur qui triche pour que la partie continue pour les autres. On défend les règles du jeu.
Et ce jeu, il est particulièrement difficile à jouer en ligne.
Ah oui, parce qu'au-delà de nos propres biais, la plateforme elle-même a ses règles. Et la première, c'est la réactivité émotionnelle brute.
On réagit à l'étricrip.
Exactement. À chaud. L'estomac parle avant le cerveau. L'exemple qui est donné est frappant, hein. Le partage d'une photo humiliante.
Oui.
L'acte en lui-même est d'une simplicité déconcertante. C'est un clic. On le fait pour rire, pour se venger, sans réfléchir. Mais les conséquences pour la personne, elles peuvent être dévastatrices. Il y a un décalage énorme entre la légèreté de l'acte et la lourdeur des conséquences.
Absolument. Et à ça s'ajoute une autre difficulté, plus subtile, ce qu'on appelle la double fracture numérique.
Oui. Alors la première fracture, on la connaît, c'est l'accès à la technologie. Mais la seconde, c'est la maîtrise des codes, des langages, des non-dits du numérique.
Et là, les malentendus peuvent être colossaux. Je pense à un truc tout simple, le point à la fin d'un SMS.
Ah oui!
Pour certaines générations, c'est normal. Pour les plus jeunes, un SMS qui se termine par un point, c'est perçu comme sec, voire agressif.
C'est un exemple parfait. Où la différence entre « bonjour, j'aimerais te voir dans mon bureau » et « bonjour, j'aimerais te voir dans mon bureau », point.
Ça change tout.
Les mots sont les mêmes, mais le ton perçu est radicalement différent. Et ne pas maîtriser ces codes, c'est risquer des conflits permanents basés sur du vent, quoi. Juste une mauvaise interprétation.
Tout ça, ça pointe vers une chose. Au lieu de courir après les fake news comme des pompiers, il faudrait peut-être faire de la prévention, de l'éducation.
C'est le point central. La lutte curative, elle est nécessaire, mais elle ne suffira jamais. La vraie prévention, c'est d'éduquer chacun à analyser son propre rapport à l'info.
C'est une introspection, en fait.
La question la plus importante, ce n'est pas « est-ce que cette info est fausse ?» C'est plutôt « pourquoi est-ce que j'ai si envie d'y croire » Qu'est-ce que ça touche en moi, dans mes biais, mes émotions, mon besoin d'appartenance, pour que ce message-là me parle autant ?
C'est une sorte d'hygiène mentale, en fait. Apprendre à se connaître en tant que consommateur d'informations.
Exactement.
Bon, si on fait la synthèse, on a vu que notre cerveau est un peu paresseux, il nous conforte dans nos certitudes, avec des biais très puissants.
Ensuite, on a vu que nos environnements, surtout numériques, ils mettent ce système sous stéroïdes. Ils nous enferment dans des bulles, ils favorisent la réaction à chaud.
Et face à ça, la solution, ce n'est pas d'éviter le désaccord. C'est impossible.
Et même pas souhaitable.
Non, c'est de le rendre constructif. Et l'outil pour ça, c'est cette fameuse décentration. Cet effort de comprendre l'autre avant de le juger.
En fait, pratiquer la décentration, c'est une forme d'humilité.
D'humilité intellectuelle, oui. Accepter que notre vision du monde n'est qu'une vision parmi d'autres. C'est ça qui transforme un dialogue de sourds en un vrai échange.
Et même si le désaccord reste à la fin, au moins on comprend mieux pourquoi on n'est pas d'accord. Et c'est déjà énorme.
C'est énorme.
Et pour terminer, le conte ouvre sur une perspective assez vertigineuse. Il fait le lien avec la pensée d'Hannah Arendt sur la banalité du mal.
C'est-à-dire ?
Pour Arendt, le pire mal, il ne vient pas forcément de monstres. Il vient souvent d'une simple incapacité à penser par soi-même, d'un refus d'exercer son jugement et d'imaginer le point de vue de l'autre.
Ce qui nous laisse avec une pensée pour la route. Au-delà de nos petites guerres en ligne, quel est le véritable enjeu pour toute une société si on perd collectivement cette capacité à se décentrer? C'est peut-être bien plus grave qu'une simple question de débat un peu tendu.